petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Des saignements anormalement abondants, des hématomes, des bleus, dès que le jeune enfant se déplace. Ces signes peuvent être les symptômes de l'hémophilie, ces troubles de la coagulation, une maladie génétique qui touche essentiellement les garçons dès la naissance. Une maladie héréditaire et pourtant, près du tiers des personnes atteintes d'hémophilie n'ont pas d'antécédents familiaux déclarés. Une maladie grave qui, dans ses formes les plus sérieuses, peut avoir un impact important sur la qualité de vie des patients. Le grand public associe cette maladie à des pertes de sang, des blessures externes, mais les épanchements internes impliquent également des risques majeurs en fonction bien sûr de leur localisation, notamment les atteintes articulaires au niveau du cerveau, de l'abdomen et des voies respiratoires. Ces déficiences ou troubles de la coagulation qui provoquent différentes maladies, on parle d'hémophilie A ou B, aussi la maladie de von Willebrand. Des traitements existent pour corriger les défauts dans les composantes sanguines, mais pas pour guérir de l'hémophilie. Une prise en charge qui s'accompagne de mesures préventives en termes de chocs, de pratiques d'activité physique adaptées, précautions lors de sorties, et puis bien sûr rester identifiable en conservant avec soi une carte d'hémophile qui permet d'intervenir de façon efficace en cas d'urgence. Journée mondiale de l'hémophilie, sensibiliser, dépister. Pour en parler, nos invités en studio, docteur Laurent Frenzel, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes hématologue responsable du centre de traitement de l'hémophilie à l'hôpital Necker Enfants Malades, Necker qui est jumelé avec le centre de transfusion sanguine de Dakar. Également avec nous, Nicolas Giraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association française des hémophiles, l'AFH. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec le Congo, avec le professeur Alexis Elira d'Okekias. Il est hématologue au CHU de Brazzaville, directeur général du Centre national de la drépanocytose et des maladies rares. En fin d'émission, nous allons retrouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, un médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et bien sûr, vos questions, vos témoignages, on les attend sur notre page Facebook. Également au numéro de l'émission 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Laurent Frenzel, hémophilie, tout le monde le sait, maladie du sang. Mais hémophilie au pluriel, car il existe plusieurs types de maladies.
Oui, il existe plusieurs types d'hémophilie. Alors, il faut juste imaginer que le sang, il doit être suffisamment fluide, mais pas trop non plus. Et pour justement réguler cette fluidité, on a pas mal de protéines dans le sang qui permettent de contrôler, et notamment ce qu'on appelle les facteurs de la coagulation, mais pas que. Il y a également, par exemple, les plaquettes qui vont également jouer ce rôle-là. Et on en a parlé de la maladie de Willebrand, donc c'est un facteur également qui va faire le lien, par exemple, entre la plaquette et les parois du vaisseau. Donc c'est vraiment un ensemble qui nous permet effectivement d'avoir notre sang qui est suffisamment fluide, mais pas trop. Quand il est trop fluide, à ce moment-là, on pourra avoir tendance à avoir des saignements, et c'est ce qui se manifeste quand on a un déficit dans une ou l'autre protéines qui permet justement de contrôler cette ce qu'on appelle cette coagulation.
Est-ce que l'on sait combien de personnes sont concernées en France par l'hémophilie, combien de malades, docteur Laurent Frenzel? Et puis, est-ce qu'il y a des facteurs géographiques? Est-ce qu'il y a des régions du monde où on est plus concerné que d'autres?
Alors, il n'y a pas de régions du monde qui sont plus concernées dans le monde. Hein, c'est quelque chose qui est effectivement plutôt homogène. Il n'y a pas de prédisposition, en tout cas ethnique, à l'hémophilie. Après, l'hémophilie, il y a plusieurs, risques de saignement qu'on évalue en termes de gravité. Hein, donc, les formes sévères, les formes modérées, les formes mineures qui sont souvent en fait liées au taux de cette protéine qui nous manque en fait dans le sang, et en fonction de ça effectivement on aura des diagnostics qui vont être plus ou moins précoces. Ce qu'on sait, c'est qu'en France à peu près en termes d'hémophilie sévère, donc qui nécessite un traitement très régulier pour effectivement protéger, on est à peu près 3 à 4 000 enfants ou en tout cas hommes qui ont cette maladie et qui doivent nécessiter effectivement un traitement régulier.
Donc c'est une maladie rare.
C'est une maladie rare.
Alors on connaît pas forcément tout le vocabulaire associé justement à votre spécialité. Il y a un mot qui revient, plusieurs mots d'ailleurs, plusieurs termes qui reviennent régulièrement quand on parle de ces maladies. Par exemple, l'hémostase, arrêt du saignement, qu'est-ce que c'est? Quelle est la procédure justement pour que ce sang, eh bien, se décide à arrêter de couler?
Oui, alors faut s'imaginer que dès qu'on se coupe, hein, donc très rapidement, normalement, effectivement, le sang va s'arrêter de couler tout simplement en fermant la brèche qui s'est formée au niveau des vaisseaux. Et ça, c'est grâce justement à ces protéines qui permettent, protéines de l'hémostase, qui permet justement de faire un caillot pour boucher entre guillemets la brèche en fait qui se forme dans le vaisseau. Et ça, c'est toute une succession de protéines qui vont intervenir à différents moments et qui sont importantes pour in fine former effectivement et fermer en tout cas cette brèche. Et par exemple dans l'hémophilie A, on a un déficit, ce qu'on appelle en facteur 8. Ce facteur 8 là a un rôle essentiel dans ce mécanisme pour former in fine ce fameux caillot qui va aller boucher le vaisseau qui s'est ouvert.
Alors, il y a quelque chose qui est un peu compliqué à comprendre, on parle de facteur, mais pourtant ce facteur, c'est un produit ou c'est une composante? Qu'est-ce que c'est exactement ce mot de facteur de coagulation?
En fait, ce facteur de coagulation, c'est une enzyme en fait, hein. C'est une protéine qu'on fabrique de manière normale la plupart du temps par le foie, également un tout petit peu par les vaisseaux, par les cellules qui entourent nos vaisseaux sanguins. Et en fait, c'est produit par notre corps. Donc c'est une protéine qui est produite et qui est nécessaire pour faire cette coagulation. Alors, après, on pourra parler par exemple de traitement pour nos patients qui sont hémophiles ou avec un déficit en facteur de la coagulation. Et à ce moment-là, on apporte des facteurs, mais exogènes. Ça reste une protéine, mais de manière exogène, c'est-à-dire comme le corps ne suffit pas, en tout cas ne peut pas produire cette protéine, on l'apporte d'une autre manière.
Alors, comment les parents, parce qu'on imagine que c'est une maladie dont on prend connaissance assez tôt dans la vie, comment les personnes savent-elles qu'elles sont concernées? En général, d'ailleurs, ce n'est pas le patient lui-même, parce que c'est un petit enfant, c'est son entourage qui prend conscience qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans notamment ses réactions, par exemple, au choc.
Oui, alors... Premier élément déjà qui va être important, c'est une maladie génétique. Donc il faut déjà effectivement savoir si dans la famille il y a déjà des cas d'hémophilie ou en tout cas de tendance à avoir des saignements, ce qui est quand même relativement important. Mais c'est vrai que 30% des enfants, des garçons qui vont naître n'ont pas d'antécédents familiaux. Donc il faut être quand même attentif, même si on n'a pas effectivement d'antécédents familial de saignements un peu inhabituels. Alors sur quel signe? C'est surtout au départ, c'est des hémates, c'est vraiment des bleus en fait, hein, très, mais très 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 fréquent. Et puis au fur et à mesure que le bébé va commencer à se mobiliser, il va avoir des douleurs, il va avoir des incapacités à mobiliser soit ses bras ou éventuellement ses jambes, avec des articulations qui ont tendance à gonfler. Et ça, c'est effectivement le sang dans les articulations qu'on appelle l'hémarthrose, qui est un signe caractéristique en tout cas de l'hémophilie. Et ça apparaît très tôt dans la vie.
Le diagnostic est rapide parce qu'il y a d'autres pathologies, hein, qui se repèrent à l'apparition d'hématomes, il n'y a pas un risque de confusion avec d'autres atteintes?
Non, globalement, c'est vrai qu'on teste de manière globale toute la coagulation. On a effectivement des tests relativement faciles pour faire ces dosages-là. Et après, en fonction des anomalies qu'on peut observer, on va aller un peu plus loin et doser plutôt des protéines plus spécifiques, notamment par exemple le facteur 8 ou le facteur 9, si on parle d'hémophilia ou hémophilie. Si on parle de maladie de Willebrand, on va doser à ce moment-là la protéine de Willebrand. Mais on a des tests plutôt globaux qui nous permettent déjà de nous orienter assez facilement sur d'éventuelles maladies hémorragiques. Et à ce moment-là, on va de manière un peu plus spécifique doser des choses plus précises en fonction de ces résultats.
Est-ce que chaque maladie de l'hémophilie est plus ou moins grave? Par exemple, si on a une hémophilie de type A, c'est plus grave que celle de type B, plus grave que d'autres maladies de la coagulation?
Non, on peut pas vraiment dire ça. Ce qui va être surtout important, c'est vraiment le taux de la protéine en fait qui est synthétisée, parce qu'on a les formes qu'on dit sévères d'hémophilia ou d'hémophilie B, même de maladie de Willebrand, où on dose pas du tout, on n'a pas du tout ni le facteur 8 pour l'hémophilia, ni le facteur 9 pour l'hémophilie B, ni la protéine de Willebrand pour le type 3, donc qui est une forme sévère. À ce moment-là, c'est les formes sévères, c'est-à-dire qu'on les diagnostique très précocement parce que effectivement, ils vont faire très rapidement des épisodes hémorragiques. Mais dans les formes modérées, surtout dans les formes mineures où on a un taux qui peut fluctuer, qui est un tout petit peu en deçà de la norme qu'il faudrait, entre guillemets, dans le sang. Alors, c'est des formes qu'on peut effectivement diagnostiquer beaucoup plus tardivement, voire jamais. Alors, moi, ça va dépendre notamment des interventions chirurgicales. Par exemple, pour les formes mineures, c'est des formes où on va plus s'en rendre compte pour certaines interventions, notamment, par exemple, les extractions dentaires, où on s'est aperçu que ça a saigné un peu plus que ce qu'il devrait, le dentiste. Et là, on va faire les tests et on va effectivement pouvoir mettre en évidence. Moi, ça m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps de ça, de diagnostiquer une hémophilie mineure à l'âge de 65 ans, parce que la personne, tout simplement, n'avait pas eu besoin d'intervention chirurgicale. Par ailleurs, va très bien, donc il n'y avait pas de raison de diagnostiquer cette maladie.
Ça veut dire que plus tard, pour d'autres interventions, ça pourrait être risqué?
Oui, tout à fait.
Donc alors, il faut absolument faire une recherche pour voir si elle est concernée?
Oui.
Alors Nicolas Giraud, je m'excuse, hein, j'ai mis du temps avant de vous passer la parole, parce que je voulais, parce que c'est pas simple cette maladie, de bien poser les choses en termes médicaux et scientifiques. Vous présidez l'Association française des hémophiles, alors vous êtes vous-même atteint d'une pathologie de la coagulation, s'appelle la maladie de Willebrand, c'est pas un nom qui est connu du grand public, hein. Moi-même je l'ai découvert en préparant l'émission. Vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne exactement?
Alors, la maladie de von Willebrand, ou la maladie de Willebrand comme plus couramment utilisée en France, on va dire, c'est donc, comme l'a dit le docteur Frenzel, c'est un déficit de la protéine donc Willebrand, qui a été nommée après la découverte par le docteur qui s'appelait de ce même nom. Et c'est sur la protéine du facteur Willebrand intervient sur l'hémostase primaire. Donc, c'est vrai que c'est compliqué quand vous dites, il y a l'hémostase primaire, l'hémostase secondaire, où c'est l'hémostase primaire, c'est là où il y a je dirais, pour compléter un petit peu le discours, c'est là où il y a la construction du clou plaquettaire pour vraiment boucher le trou, et ensuite la cascade de la coagulation avec les autres facteurs de la coagulation, comme le facteur 8, facteur 9 ou d'autres, vient pour bien colmater, bien solidifier ce clou, et puis ensuite pour résorber cette liaison, je dirais. Donc c'est là où il intervient.
Alors, avant de parler de votre activité associative, j'aimerais justement que vous me disiez tout simplement comment est-ce que vous avez pris connaissance du fait que vous étiez affecté par cette maladie.
Ouais, alors ça c'est... On parle de diagnostic, hein, et des formes sévères ou moins sévères, et tout dépend quand est-ce qu'on est diagnostiqué. C'est vrai que c'est une maladie, pour mon cas personnel, c'est une maladie héréditaire, donc c'est mon père qui me l'a transmise.
Et il était lui-même affecté, il avait des symptômes.
Tout à fait, il était lui-même affecté. Lui-même, de son côté, la famille, ils étaient tous ensemble, ils étaient sept, entre frères et sœurs. La différence un petit peu de la maladie Willebrand avec l'hémophilie, c'est que ça concerne autant les hommes que les femmes. Mm-hmm. Donc il n'y a pas de différence, je dirais, sur ce point de vue, sur ce point-là. Les sept frères et sœurs étaient tous concernés. Donc,
comment ils l'ont su, moi ? C'est ça ce que je vous alors, demande. Ça fait quoi, exactement, cette maladie ?
Ils ont vécu avec, sans le savoir. Les docteurs n'ont jamais... il faut dire, c'était 30, 40 ans, 50 ans en arrière. Mm-hmm. Hein. Il n'y avait jamais eu de diagnostic posé. C'était l'habitude. C'était une famille qui saignait un peu plus anormalement.
Mais vous disiez aussi des filles concernées. Ça veut dire qu'au moment des règles, au moment des menstruations, ça devait être particulièrement problématique.
Exactement. Tout à fait. Mais donc, ils ont appris à vivre avec. Entre guillemets. Et puis c'est à la naissance d'une petite cousine, de ma cousine, où ils ont rencontré un généraliste qui avait fait son internat dans un centre spécialisé sur Marseille en hématologie et qui avait entendu parler hémophilie, maladie Willebrand. Et quand il a vu les symptômes de ma cousine, il s'est dit peut-être il faut faire une recherche, en tout cas une analyse sanguine plus poussée. Et c'est là où, en fait, le diagnostic a été posé.
Mais vous, Nicolas Giraud, dans votre quotidien, la maladie avait quelque chose d'invalidant ? Ça vous perturbait votre vie quotidienne ?
Alors, étant jeune, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de saignements, je dirais, de nez. Notamment aussi de bleu lorsqu'il y avait des chocs. C'est vrai que moi j'ai grandi quand même, comme mes parents avaient vécu, ou en tout cas mon père et mes oncles et mes tantes avaient vécu toute leur vie, n'avaient jamais eu de restrictions au point de vue activité physique, point de vue avoir une vie entre guillemets normale. C'est vrai que donc j'ai pas eu de restrictions sur ce point-là, donc j'ai eu des moments où il y a eu des chocs, il y a eu des bleus, il y a eu des chutes, et donc c'est vrai que ça a été des parties invalidantes, mais bon, ben on a appris à vivre avec et voilà.
Vivre avec, ça veut dire que vous avez un traitement particulier?
Alors à ce jour, oui, j'ai accès à un traitement je suis pas en prophylaxie, donc c'est-à-dire pas en préventif, hein, mais c'est vraiment à la demande s'il y a un choc ou s'il y a une chirurgie programmée, donc.
Et ça, docteur Laurent Frenzel, c'est différent par rapport aux hémophiles à proprement parler, qui eux ont des traitements au long cours.
Tout dépend de la gravité en fait de l'hémophilie. Pour les formes sévères, la majorité de nos patients, hein, de nos hommes, sont en ce qu'on appelle en prophylaxie, hein, donc c'est-à-dire on va essayer de protéger et de réagir avant que apparaissent les symptômes d'hémorragie, notamment au niveau articulaire. Par contre, pour les formes modérées ou les formes mineures, en général, on traite que si on a besoin de traiter. C'est souvent, la plupart du temps, soit après un traumatisme, ou soit juste avant une intervention chirurgicale.
On a bien parlé de maladie héréditaire, maladie génétique, docteur Laurent Frenzel. Est-ce que ça veut dire que forcément, il y a des personnes qui se sont déclarées parmi les aïeux, hein, dans le reste de la famille ?
Oui, ça peut arriver. Alors, maladie génétique, alors faut bien comprendre que le mode de transmission de l'hémophilie A ou de l'hémophilie B est différent de la maladie de Willebrand ou des autres facteurs à coagulation. Alors, dans l'hémophilie, on sait souvent que c'est souvent les garçons en fait qui sont atteints. Alors pourquoi? Parce que c'est une maladie qu'on appelle qui est liée à l'X. En fait, faut pas oublier que on a 22 paires de chromosomes plus une paire de chromosomes sexuels. Quand on est un garçon, on a un X et un Y, et quand on est une fille, on a deux X. Ce qui se passe, c'est pour l'hémophilie A et l'hémophilie B, la mutation se situe sur un des X en fait. Quand on est une fille, bah en fait, on a l'autre X qui va pouvoir compenser. Et très souvent, les femmes n'ont pas ou très peu de symptômes, pas avoir une forme modérée ou pas du tout, mais elles vont être conductrices, c'est-à-dire que quand elles vont avoir un enfant, si elles ont un garçon, 50% de probabilité de transmettre l'X où il y a cette fameuse mutation. Par contre, quand on a un garçon, si on a un X avec cette fameuse mutation, comme on n'a pas l'autre, puisqu'on a ce qu'on appelle un Y qui ne fera pas le même rôle, ben, du coup, on ne pourra pas compenser. Et à ce moment-là, effectivement, vont se développer les maladies. Pour la maladie de Willebrand, c'est différent parce que c'est pas lié sur les chromosomes sexuels, c'est sur les autres chromosomes, le chromosome 12. Et là, donc, c'est effectivement que ça soit le risque de transmission est identique, que ça soit effectivement homme ou femme, mais on peut effectivement développer et être particulièrement vigilant dans une même famille au risque que effectivement un autre membre, bien sûr, peut être atteint de cette maladie.
Alors, la vigilance. On disait tout à l'heure, diagnostic une fois que le petit enfant commence à bouger, mais parfois c'est bien plus tôt puisqu'il peut se faire au moment de la grossesse, c'est bien ça?
Alors au moment de la grossesse, ça peut arriver que la maman qui à ce moment-là conductrice puisse avoir des saignements si elle a un taux de facteur qui est relativement bas, c'est-à-dire que l'autre X ne fait pas complètement le travail qu'il faudrait, ça peut arriver, mais c'est surtout en fait à l'accouchement. C'est sûr que si c'est un garçon qui est hémophile, notamment sévère, ou une maladie de Willebrand qui est sévère, qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas pu le dépister, parce que pas de cas familial, par exemple, au moment de l'accouchement, si l'accouchement était difficile, qu'on doit utiliser effectivement des instruments, ça peut, dans certains cas, se compliquer d'hémorragie, notamment d'hémorragie cérébrale, tout simplement par l'utilisation, par exemple, de ventouses un peu, voilà. Donc, quand on sait, par exemple, que le garçon à venir est atteint d'une hémophilie, on fait particulièrement attention. On contre-indique complètement l'utilisation de ces outils pour justement les limiter. Mais quand on ne le sait pas...
C'est pas évident.
Oui.
Informer, sensibiliser. On va reparler tout à l'heure, bien sûr, de cette hémophilie, de son image aussi dans la société, parce que c'est quelque chose d'assez particulier. En tout cas, quand on parle de l'hémophilie, il faut lutter contre un certain nombre d'idées reçues. Nicolas Giraud, quels sont les préjugés qui, encore aujourd'hui, ont cours au sujet de cette maladie, de ce défaut de la coagulation?
Alors, je dirais que le préjugé principal, c'est vrai que on parle d'hémophilie ou on parle de maladie du sang, ben voilà, il y a une coupure, on va se vider et c'est la fin. Alors que ce n'est pas du tout le cas, fort heureusement. Donc ça c'est déjà la première chose qu'on doit lutter et de dire que c'est pas vraiment le cas. Et puis on peut être concerné par une maladie hémorragique rare et vivre tout à fait normalement avec une prise en charge adaptée et avec une intégration professionnelle, scolaire et sociétale complètement, je dirais, normale.
Mais ça passe par insister justement sur l'éducation thérapeutique parce qu'on parle des médicaments, des traitements, des analyses, des examens, mais il y a cette partie d'information et de sensibilisation du patient de sa famille.
Exactement. C'est un sujet très important pour l'association française des hémophiles, l'éducation thérapeutique, l'information, la connaissance de soi, c'est mieux vivre avec parce que, ben, comme on vient de le dire, c'est une maladie chronique, donc on va vivre toute sa vie. Il y a le risque aussi de transmettre potentiellement, donc il y a aussi l'information à la descendance, à comment vivre,
transmettre l'information.
Transmettre l'information, exactement, merci. Il y a aussi, bon, malheureusement, il y a eu cet épisode des années 80 avec le sang contaminé qui a fait aussi un amalgame, je dirais, avec l'hémophilie, le VIH.
Le VIH-SIDA. Alors, pour rappeler aux auditeurs, parce qu'un certain nombre de personnes qui nous écoutent n'étaient pas nées à l'époque, il y a eu des problèmes qui ont même débouché sur un volet judiciaire avec des condamnations, des insuffisances graves dans la sécurisation des produits sanguins. Ça veut dire que comme certaines personnes qui sont hémophiles ont besoin au quotidien d'injections de produits sanguins. Par là même, on a injecté du sang pour les aider, mais on a aussi injecté le virus. Donc il y a eu véritablement une page absolument tragique. Malgré tout, c'est il y a près de 25 ou 30 ans, malgré tout, ça reste associé. Parce que tous ces parents qui ont été complètement frappés dans leur chair, dans leur famille, ça reste un drame absolu.
Complètement.
On peut dire même un scandale sanitaire sans précédent en France.
Un, Complètement. Et puis aussi, ça a créé vraiment aussi un tabou au sein de certaines familles, au sein de la communauté, où voilà, si on disait qu'on était homophile, ben de suite, on était concerné par le VIH. Voilà, donc je veux dire...
Un amalgame erroné, en tout cas.
C'est allé vraiment au-delà de la tragédie que nous connaissons, qui a vraiment impacté notre communauté. Et aujourd'hui encore, c'est encore difficile.
Alors, on va revenir justement à cette gestion du quotidien avant d'entendre un témoignage. Docteur Laurent Frenzel, on parle bien sûr de prévention, de précaution au quotidien. Surtout, on l'imagine, hein, quand on travaille avec des enfants. Justement, ce type d'information, cette éducation thérapeutique, elle est directement intégrée à la consultation. J'imagine même que ça prend une bonne part du temps de consultation.
Ah oui, tout à fait. Ça prend une énorme part de consultation parce que c'est vraiment, c'est limite, c'est tout aussi important, voire plus que le traitement. Parce que, effectivement, il faut vivre avec toute sa vie et il faut voilà pouvoir effectivement faire des activités les plus normales entre guillemets pour pouvoir effectivement avoir une vie normale. Après les traitements, bien sûr, on va s'adapter pour justement aider le patient à avoir cette vie normale, mais l'éducation thérapeutique est très importante, voire prioritaire sur la prise en charge.
Vous restez avec nous tout de suite, un reportage.
Priorité santé sur RFI.
Vivre avec, hein, justement, vivre, grandir quand on est hémophile. Raphaël Constant a rencontré Émilie, 33 ans, son fils Mathis a 10 ans. Il est atteint d'une hémophilie assez sévère. Une rencontre chez eux, hein, dans l'Oise, au nord de Paris, un quotidien qui est ponctué par les rendez-vous et par un certain nombre de précautions.
Mathis, en fait, il a donc son infirmière qui vient à domicile deux fois par semaine pour sa prophylaxie le mardi matin et le vendredi matin. Pour pouvoir son sang qui coagule, on va dire, à un taux convenable, donc qui sera jamais à 100%. Mais au moins, il a pas de risque, enfin, il a moins de risque d'hémorragie et d'hémarthrose.
C'est un traitement que j'ai deux fois par semaine, ça s'appelle Elocta. Et puis, j'ai 2500 unités. C'est une injection. Pour mes veines, c'est compliqué parce qu'elles ne tiennent plus trop. Et des fois, bah, j'ai toute la semaine si je me tords la cheville, si j'ai mal au genou.
Donc on essaye de les faire les jours où il a le sport, à l'école, pour qu'il soit plus protégé. Cependant, il en fait quand même beaucoup d'hémarthroses, même avec le traitement. Des hémarthroses, en fait, c'est donc du sang qui se met dans les articulations. Et donc ce sang, en fait, lui abîme donc les cartilages, donc toutes les articulations. Donc Mathis a beaucoup de soucis au niveau des chevilles, au niveau des genoux. Donc c'est bien souvent, on va dire, une fois par mois, pendant une semaine, il y a l'infirmière qui vient quotidiennement, parce que une fois par mois, il a des hémarthroses minimum.
Mathis, qu'est-ce que tu sais de ton hémophilie ?
Bah, que je peux pas faire tous les sports que je veux, et puis j'ai mal souvent. Aux genoux, aux chevilles, et des fois aux bras. Ça me fait mal des fois quand on me pique, mais sinon je le vis bien.
Ensemble, comment vous vous organisez au quotidien pour gérer cette hémophilie ?
Mathis a une trousse de secours pour l'école en cas de souci. Donc, il sait très bien compresser si jamais il a un souci, si jamais il saigne ou quoi que ce soit. Il a également un produit à l'école si jamais il y a un accident qui vient à saigner et qui doit être emmené aux urgences pour une injection.
Et toi, Mathis, est-ce que tu connais les précautions que tu dois prendre ?
Bah, pas m'engager dans les trucs dangereux.
Il faut qu'il fasse attention donc aux bagarres. Donc après, s'il tombe, il y a un protocole particulier à respecter. Si jamais il tombe sur la tête, bah il doit déjà, enfin directement aller à l'hôpital en fait pour voir s'il fait pas une hémorragie. Au niveau donc journalier, son quotidien, il doit faire très attention à quand il se cogne ou s'il a des douleurs aux articulations. C'est surtout ça qu'il faut faire très attention parce que en fait il faut faire venir l'infirmière du coup pour qu'il ait son facteur en urgence.
Et ça t'est déjà arrivé d'avoir un problème à l'école ?
Oui, une fois, on jouait à chat et je me suis cogné la tête contre le mur. J'avais une grosse bosse sur la tête. Ça gonflait d'heure en heure. Bah, il faut dire que j'aille voir si ça saigne. Si ça saigne, bah, il faut que je me nettoie là où ça saigne. Puis voilà.
Comment vous avez fait pour expliquer à Mathis son traitement et toute prévention pour éviter une catastrophe ?
Bah, on va dire que c'est encore au quotidien, puisque Mathis, même s'il a 10 ans maintenant et qu'il connaît sa maladie depuis qu'il est petit, bah lui, il a l'impression d'être surprotégé, donc il nous défie en permanence et quotidiennement. On est obligé de lui expliquer les risques qu'il encourt s'il fait telle ou telle chose. Quand il était plus petit, donc Mathis était un casse-cou, un bagarreur, donc du coup il revenait, donc il avait reçu des coups, donc j'avais beau lui expliquer que c'était très dangereux si jamais il recevait des coups et s'il en donnait, qu'on lui redonne. Enfin, c'est quotidiennement en fait. Par exemple, de marcher à cloche-pied, enfin, il peut pas le faire parce qu'en fait, c'est son pied, c'est risque d'hémarthrose directement. Enfin, c'est que des choses comme ça, quoi. Comme les enfants, ils aiment bien monter sur les petits murets. Mathis va le faire, donc je lui rappelle à l'ordre qu'il a pas le droit de le faire. C'est vrai que je laisse pas forcément vivre comme un enfant qui a pas cette maladie. Tout ce qu'il va faire, je vais être tout le temps en train de, enfin, quand il est avec moi, je vais tout le temps être en train de voir s'il y a pas de danger, quoi.
Et ça, comment tu le comprends, toi, Mathis ?
Bah, que c'est dur. De toute façon, ce sera pas autrement. Et puis, bah, voilà. Bon courage à vous aussi.
Un reportage de Raphaël Constant. L'hémophilie, les troubles de la coagulation. Nous sommes toujours en compagnie de nos deux invités, docteur Laurent Frenzel, hématologue, Nicolas Giraud, président de l'Association française des hémophiles. Alors, on l'entend, les enfants apprennent le quotidien de cette maladie, les parents aussi. Est-ce que justement votre association propose un accompagnement pour l'entourage au-delà des gestes de cette éducation thérapeutique? Il y a aussi l'acceptation de cette maladie qui peut être, donc on l'a compris, avec des conséquences assez lourdes.
Oui, tout à fait. Nous avons plusieurs groupes de travail, ou groupes des commissions, que ce soit commission femmes, commission parents de jeunes enfants, commission kiné, voilà, différentes commissions, commission Wilbrand, commission pathologie plaquettaire, où les gens peuvent se réunir entre pairs, échanger, partager leur histoire, nous proposons aussi un accompagnement au niveau associatif. Nous avons une permanence pour des demandes spécifiques le mardi après-midi, le jeudi après-midi, où nous répondons aux demandes, ou en tout cas on essaye de répondre au mieux, ou de diriger les personnes par rapport aux problématiques particulières qu'ils rencontrent.
Il faut identifier les secteurs sensibles. On imagine l'accompagnement aussi en milieu scolaire pour différentes étapes de la vie.
Tout à fait. Donc c'est vrai qu'au niveau scolaire, il y a le PAI, qui est le plan d'accueil individualisé, qui se met en place avec les professionnels de santé. Et bien souvent, des fois, ça suffit pour rassurer le personnel, je dirais, scolaire, mais des fois, il faut aller au-delà, il faut rencontrer soit les professionnels de santé, ou soit accompagner les membres associatifs, la famille.
Parce que comme c'est une maladie rare, il se peut qu'un certain nombre, y compris d'infirmières scolaires, n'aient jamais été confrontés à aucun cas d'hémophilie.
Complètement. Vous avez dit le mot, c'est maladie rare. Et c'est ça la difficulté d'expliquer aussi, de connaître toute l'éducation thérapeutique, c'est aussi de développer cette connaissance de cette pathologie pour pouvoir expliquer aux personnes qui ne sont pas concernées ou qui ne sont pas habituées à cette maladie, et notamment les professionnels de santé, notamment dans le milieu scolaire ou au niveau des urgences aussi, où là, il faut vraiment expliquer, malgré la carte, certains services d'urgence. On sait très bien comment ça fonctionne aujourd'hui en France, où ça, c'est un renouvellement constant tous les 6 mois. Donc, il faut réinformer, réexpliquer.
On ne connaît pas les patients, tout simplement. Autre chose, est-ce qu'il y a aussi toute une tâche qui est de rassurer les gens, parce que finalement ils vont peut-être dramatiser certaines réactions et finalement penser que, on va pas dire que c'est plus grave que ça ne l'est en réalité, mais qu'en fait il y a des gestes, il y a des solutions, et que c'est pas quelque chose qui est absolument tragique à tout coup.
Tout à fait. La différence de sévérité de cette maladie fait qu'on est plus ou moins au courant, on a plus ou moins développé une habitude de savoir comment réagir en cas d'accident. Et c'est vrai que les formes mineures ou modérées, quand il y a un accident, ça devient dramatique parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Pour les formes sévères, c'est vrai qu'il y a la prophylaxie, il y a le contact avec le professionnel de santé qui se fait assez régulier, une fois ou deux fois ou voire 3 fois par an, qui est nécessaire. Hein. Et d'ailleurs, même pour les formes modérées ou mineures, une rencontre régulière d'une fois par an ou 2 fois par an doit se faire. Mais c'est vrai que c'est pas l'automatisme, parce que y a pas le rappel de la maladie, s'il y a pas l'accident, s'il y a pas la chirurgie, et donc on a tendance à l'oublier. Mais le jour où il y a l'accident, c'est vrai qu'on perd un petit peu ses moyens. Et puis même si on est bien au courant, en cas d'accident, on perd, je dirais, ses moyens naturellement. Donc c'est il faut vraiment développer cette, et à travers l'éducation thérapeutique, à travers les échanges, à travers les informations que nous proposons, des livres d'informations, de de sensibilisation de professionnels de santé comme les dentistes, comme les pédiatres, comme les gynécologues à ces problèmes-là pour améliorer, je dirais, la prise en charge.
Par exemple, on imagine en gynécologie, on déconseille le port de certains stérilets pour des femmes qui seraient atteintes de la maladie de Willebrand.
Alors ça dépend, parce que bon là, c'est des questions un petit peu médicales et un petit peu pointues, donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Mais il y a la chose essentielle doit se faire la communication entre la patiente, le gynécologue et l'hématologue.
Indispensable. On a entendu tout à l'heure avec Mathis, il dit l'infirmière lui rend visite. On comprend bien qu'il y a deux modes de prise en charge. L'aigu, hein, c'est ce qu'on vient de dire, les urgences en cas d'accident. Le long cours avec vous en consultation. Il parlait de ses traitements, docteur Laurent Frenzel, tout à l'heure, le petit Mathis. Ça lui est administré comment? Par piqûre?
Oui, c'est une très bonne question. En fait, il disait effectivement les piqûres. Faut imaginer que pour l'instant, pour justement traiter, c'est-à-dire apporter ce qui lui manque, hein, son facteur de la coagulation qui lui manque pour justement ne pas rendre son sang trop fluide, donc le rendre moins fluide. En fait, c'est des injections intraveineuses. Donc, faut bien comprendre, c'est l'intraveineuse.
Il disait, j'ai les vaisseaux abîmés, hein, oui. Il le disait concrètement.
Oui, bien sûr, au bout d'un moment, effectivement, ça peut faire mal. Tout le monde a déjà eu, effectivement, une prise de sang, voit un peu les douleurs qu'on peut avoir un petit peu. Donc, il faut s'imaginer qu'on doit faire des injections 2 à 3 fois par semaine, et ce, pendant toute sa vie, en fait. Hein. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Ces injections durent combien de temps? La plupart du temps, elles durent moins de 5 minutes. Donc, alors, comment ça se passe? Comme on l'a dit tout à l'heure, on a laissé ce diagnostic essentiellement chez les enfants très jeunes. Au départ, ils viennent régulièrement à l'hôpital avec une infirmière qui est habituée, qui travaille dans notre centre, pour effectivement les perfuser. Puis, au fur et à mesure, l'idée, c'est quand même d'autonomiser, et ça, effectivement, pour pouvoir permettre d'avoir une vie un peu plus normale et de pas venir tout le temps à l'hôpital. Et on apprend, dans un premier temps, aux parents de perfuser, d'injecter le produit à leur enfant. Et dès l'adolescence, on a effectivement des formations pour justement apprendre à ces adolescents de se perfuser eux-mêmes. Donc, la majorité de nos patients adultes qui nécessitent une prophylaxie avec des injections régulières se perfusent eux-mêmes parce qu'on leur a appris, c'est plus pratique. Alors c'est sûr qu'ils doivent avoir en permanence leur facteur à leur domicile ou quand ils partent en vacances, de effectivement prévoir suffisamment de traitement pour pouvoir effectivement faire son traitement pendant leurs vacances. Mais le fait de se le faire soi-même est quand même beaucoup plus pratique et ne rend indépendant d'une infirmière ou de l'hôpital.
Ce qui s'est fait très longtemps pour les personnes qui étaient insulino-dépendantes, qui devaient se piquer avant qu'on invente les fameux stylo d'injection d'insuline. On va tout de suite partir pour le Congo.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, professeur Alexis Elira Dokekias, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hématologue au CHU de Brazzaville. Professeur Dokekias, est-ce que vous avez des chiffres, est-ce que vous avez des données épidémiologiques en ce qui concerne l'hémophilie dans votre pays, le Congo-Brazzaville?
De façon globale, il faut dire en Afrique noire, pour avoir des données précises sur le plan de la prévalence, c'est très difficile. Ce qu'il faut dire, c'est que, comme les prédécesseurs l'ont évoqué, il y a des formes congénitales et des formes acquises de l'hémophilie. Si je me focalise sur les formes congénitales, il faut relever que les malades qui s'adressent aux hôpitaux sont souvent ceux qui ont des formes sévères de la maladie. Alors donc, je peux dire à Brazzaville, nous avons dans notre registre 83 cas. Il s'agit essentiellement des hémophiles sévères.
Avec quel type de manifestation déjà? Est-ce que ces patients hémophiles sévères ont consulté tôt? Est-ce qu'ils étaient enfants lorsque leurs parents les ont accompagnés pour la première fois pour vous voir dans votre service d'hématologie?
Voilà, surtout pour les cas d'enfants, la maladie est souvent révélée à l'occasion des circoncisions. Vous savez que les garçons de sexe masculin, dans le cadre de nos coutumes et de nos rites, l'enfant doit être soumis à une circoncision, et c'est souvent des circoncisions hémorragiques qui sont des circonstances d'admission. Mais il y a cependant un certain nombre de patients qui sont malheureusement, pour défaut d'information, admis à un stade tardif, avec des saignements articulaires, des saignements musculaires, et même des saignements des formes plus graves à l'occasion d'intervention chirurgicale.
Ça veut dire qu'en cas d'accident au moment de la circoncision, là, il y a même un risque d'anémie?
Évidemment, c'est-à-dire les patients, ils viennent maintenant parfois dans notre service après avoir subi 2 transfusions extérieures à l'occasion des circoncisions, et c'est à cette occasion que, en raison de la persistance des saignements, que les enfants sont admis dans notre service.
Alors qu'on sait aussi que dans certains contextes régionaux, les transfusions, c'est pas toujours évident dans des centres de santé éloignés des grands centres hospitaliers.
Il y a évidemment des risques sur la circoncision. Ce sont des risques imposés d'abord par du matériel utilisé lors de la circoncision, qui n'est pas un matériel souvent propre, qui expose au risque de contamination divers. En plus, je sais que le sang qui est utilisé dans les centres qui ne sont pas accessibles n'est souvent pas testé conforme aux normes, donc ça fait courir à ces patients des risques de contamination infectieuse.
Professeur Alexis Elira d'Okekias, est-ce que vous diriez que chez vous, au Congo-Brazzaville, il y a un vrai problème dans l'accès aux produits sanguins, voire même un problème dans la sécurisation de ces produits, ou ce n'est pas le cas?
Non, la sécurité transfusionnelle est en progrès dans toute l'Afrique noire, y compris au Congo-Brazzaville, dans les services officiels. Donc, nous savons que notre centre de transfusion sanguine couvre tout le territoire et par conséquent, il est exigé que les analyses pré-transfusionnelles de qualification biologique du don du sang, tant sur le VIH et les hépatites et la syphilis, sont réalisées. Donc, il y a un problème de sécurité qui se pose. Mais il faut se dire que lorsque les gestes de circoncision sont pratiqués clandestinement dans les coins reculés, évidemment, nous subissons des complications post-transfusionnelles.
Alors, on a dit tout à l'heure, on n'a pas de chiffres au niveau national de l'hémophilie. Est-ce que vous diriez, justement, pour s'en tenir à ce contexte régional, à ce contexte du Congo, qu'il y a aujourd'hui une stigmatisation? On disait tout à l'heure en France des fausses informations, des préjugés qui circulent encore sur l'hémophilie. Est-ce que chez vous, c'est la même chose, voire même avec des croyances parfois mystiques?
Évidemment, chez nous, nous avons le problème du mythe qui se pose sur l'hémophilie. Je vais vous donner très brièvement l'exemple d'un petit enfant de 9 ans qui vit à 450 km de Brazzaville, que nous sommes partis soutirer parce qu'il faisait des hémorragies répétées avec des déformations articulaires qui entravaient son activité physique. Lorsque nous avons commencé à le prendre en charge grâce à l'appui de la Fédération mondiale d'hémophilie pour essayer de corriger ces hémorragies articulaires et musculaires, évidemment, un mois après, les parents ont refusé de venir en contrôle avec l'enfant et ils présentent la situation comme étant un enfant qui a une maladie mystique et mystérieuse et cet enfant est traité parfois comme de sorcier. Donc on a des exemples qui sont comme ceux-là parce que les gens ne sont pas assez sensibilisés, ne sont pas assez informés et continuent à garder le mythe sur certaines maladies génétiques.
Avec le risque de voir l'enfant délaissé justement compte tenu de tout ce qui est associé, on le répète, de façon fausse à son état de santé.
Évidemment, c'est-à-dire si les choses sont mal interprétées, mais l'enfant qui va subir des complications hémorragiques n'ira pas à l'hôpital, il peut soit décéder ou s'il arrive à se tirer, il va porter des séquelles très graves et à partir de là, nous allons souffrir pour assurer la prise en charge correcte de cet enfant et de l'insérer tant sur le plan scolaire que sur le plan de son insertion dans la société.
Professeur Dokekias, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui vous avez les moyens suffisants pour prendre en charge ces maladies sanguines dans votre pays? On a dit tout à l'heure en introduction, votre spécialité, c'est bien sûr aussi de regarder ce qui se passe du côté de la drépanocytose. Avez-vous les moyens suffisants?
Voilà, le Centre national de référence à la drépanocytose, qui porte le nom d'une éminente dame qui a essayé de consacrer de la lutte contre la drépanocytose en Afrique, est un centre pour lequel nous avons connecté le problème des maladies rares dans l'hémophilie. Donc actuellement, nous disposons des capacités en ressources humaines et des capacités techniques pour dépister l'hémophilie. Et depuis l'année 2017, où nous avons l'appui de l'Association française de l'hémophilie et de la Fédération mondiale d'hémophilie, nous recevons des produits destinés à prendre en charge les hémophiles, que ce soit les hémophiles A ou B. Donc on peut dire qu'on est dans l'idée d'assurer le meilleur suivi et le meilleur accompagnement des patients atteints d'hémophilie. La preuve en est que l'Association congolaise d'hémophilie qui a été montée agit également pour assurer la promotion de la santé et nous amener à aller dépister, y compris certaines formes silencieuses, si on le peut, et puis prendre en charge toutes les formes sévères d'hémophilie. Je crois qu'on a des avancées. Avant 2017, le tableau était difficile, parce que pour prendre en charge un hémophile, il fallait que ce soit les hémophiles A qui venaient pour intervention chirurgicale ou pour accident hémorragique. On pouvait fabriquer à partir des produits sanguins, ce qu'on appelle du cryoprécipité, qu'on pouvait leur transfuser, mais l'hémophile B n'avait pas de produit parce que les coûts étaient onéreux. Donc on peut se dire, depuis 2017, il y a eu des changements importants parce que nous bénéficions de l'appui de la Fédération mondiale d'hémophilie.
Merci infiniment pour toutes ces précisions, professeur Alexis Elira d'Okekias, d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes hématologue au CHU de Brazzaville et donc également directeur général du Centre national de la drépanocytose et des maladies rares.
RFI à Brazzaville,
93.2 FM.
Nous arrivons à la dernière partie de notre émission, un conseil très pratique. Je me tourne vers vous, docteur Laurent Frenzel. Il y a certains médicaments qui sont fortement déconseillés aux personnes à tendance hémophile. Le plus connu de ces produits, c'est évidemment l'aspirine.
Oui, tout à fait. L'aspirine, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'aspirine, bien sûr, on peut l'utiliser pour différentes raisons, notamment pour des douleurs ou de la fièvre, ou également pour fluidifier le sang, notamment quand, par exemple, on peut avoir des problèmes cardiaques, la mise en place, par exemple, d'un stent, nécessite effectivement que de rendre le sang plus fluide, et on utilise, par exemple, de l'aspirine pour ça. Or là, dans cette situation, on se doute bien que le sang est déjà trop fluide. De rajouter un médicament qui augmente encore plus cette fluidité va, évidemment, amener le patient à avoir plus d'accidents hémorragiques. Alors, l'aspirine, bien sûr, elle est relativement connue. Un autre produit qui est beaucoup plus utilisé que l'aspirine, mais peut-être on connaît un peu moins cette activité de fluidifiant, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont également contre-indiqués, prophénine par exemple pour de ce type de médicaments, ou effectivement l'ibuprofène, typiquement l'ibuprofène qu'on utilise beaucoup plus, qui est en vente effectivement libre hein, dans les pharmacies.
On n'utilise pas toujours forcément les précautions en tout petit caractère.
Exactement,
là, sur la notice.
Et c'est un anti-inflammatoire, et ça, c'est ce qu'on appelle un anti-agrégant plaquettaire, c'est-à-dire en fait ça va empêcher les plaquettes de s'agréger entre elles, et c'est effectivement ça fluidifie le sang, donc c'est effectivement si on a déjà un risque hémorragique, de prendre ce type de médicament augmente le risque hémorragique.
Alors, mise en garde, traitement, éducation thérapeutique, un autre point qu'on n'a pas eu le temps d'aborder encore, il nous reste assez peu de temps, docteur Laurent Frenzel, c'est la dimension multidisciplinaire de la prise en charge, notamment l'importance de la kinésithérapie.
Oui, alors, la principale complication hein, des patients hémophiles sévères ou avec une maladie autre trouble de la coagulation sévère, ça va être avant tout les complications articulaires du fait des saignements répétés, comme l'a dit Mathis, ou qui peut endommager ses articulations. Après, on va traiter le patient en prophylaxie pour protéger, mais en dehors de ça, il faut également renforcer son articulation. Pour renforcer son articulation, pour faire de l'activité physique régulière, ça c'est important. Et puis,
ça va profiter. Un peu contre les idées d'ailleurs. Oui. On disait, il est dans une bulle de coton, l'enfant hémophile, il ne bouge pas, non.
Ah non,
il faut qu'il bouge
absolument.
Doucement. Avec précaution, mais
il bouge. Après, on va effectivement lui dire les sports qu'il peut faire et peut-être des sports qu'il faudra peut-être qu'il réfléchisse avant de pouvoir les faire, des sports qui sont
traumatiques. On évite la boxe.
Voilà, les sports de combat, c'est pas la meilleure idée, c'est sûr, mais voilà, après d'autres sports qui sont très bien, le vélo, la piscine, donc ça c'est important. Après, il y a effectivement nos collègues kinésithérapeutes qui ont également une place vraiment prépondérante, justement, pour assurer un maintien articulaire et éviter que l'articulation soit un peu instable et qui est plus à risque à ce moment-là de saigner. Le fait que l'articulation soit bien solidaire, bien stable, va faire qu'elle est d'une part moins douloureuse et puis moins de saignement.
Et puis ce sera le mot de la fin, Nicolas Giraud, aussi le soutien psychologique, c'est très important.
C'est très important. Et ça fait partie justement dans la prise en charge multidisciplinaire dans les centres de ressources et de compétences. Sur ce point, malheureusement, quand même en France, pas tous les centres sont au même niveau. Les moyens ne sont pas tous égaux. Et donc, il y a encore quand même un petit peu de travail à faire sur ce côté, sur ce soutien psychologique. En tout cas, nous, au niveau associatif, on essaie d'accompagner au mieux toutes les personnes concernées par une maladie hémorragique rare.
Avec, justement, dans ces soins de support, peut-être un autre qui vous vient à l'esprit, qui peut vraiment faciliter le quotidien des patients ?
Un autre support. Alors, c'est une question qui
correspond en fait peut-être à chaque cas. C'est peut-être un petit peu compliqué. En tout cas, ce qu'on a vu avec vous, ce qu'on a bien compris, c'est la dimension très globale hein, de la prise en charge qui est nécessaire justement pour alléger le fardeau de la maladie qui peut être particulièrement lourd pour l'entourage.
Pour l'entourage, oui. Et puis, bien sûr, je pense qu'il y a aussi une adaptation du protocole à chaque famille, à chaque profil, parce que chaque personne ne correspond pas au même protocole. Et on a entendu le témoignage où ce petit garçon est un prophylaxie deux fois par semaine, mais malheureusement, il y a toujours ces hémarthroses, donc peut-être il y a vraiment une adaptation, un contact plus régulier avec les centres spécialisés, et je souligne spécialisés parce que ça, il y a une
importance de la spécialisation
face
à ce type de maladie.
Voilà, exactement. Donc c'est vraiment d'adapter le programme, la prise en charge
individualisée, la prise en charge. Merci beaucoup Nicolas Giraud, président de l'Association française des hémophiles, et vous, docteur Laurent Frenzel, hématologue au centre des hémophiles, oui, de l'hôpital Necker Enfants Malades. L'activité physique, c'est bon pour la santé. On en parle tout de suite dans Priorité Santé avec vous, docteur Jean-Marc Sen. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Docteur Sen, alors avec vous, on parle régulièrement des bienfaits de l'activité physique. Est-ce que le fait de bouger plus, de lutter contre la sédentarité, eh bien, est-ce que ces messages de santé publique sont suffisamment appliquer dans la pratique.
Bah absolument, Caroline. Les bienfaits de l'activité physique sont plus à démontrer. En effet, on sait qu'il y a des bénéfices, hein, qui sont largement supérieurs aux risques. Et pourtant, on s'est rendu compte qu'une étude en France, faite par l'Agence Santé publique France, montre que chez les adultes de 18 à 74 ans, eh bien, seulement 53% des femmes et 70% des hommes atteignent les recommandations de l'OMS. Donc, les gens bougent de manière insuffisante. Alors qu'on sait que l'activité physique, tant sur le plan préventif que curatif, eh bien, c'est une thérapeutique à part entière. Le problème, c'est que la population est de plus en plus sédentaire, a de plus en plus de maladies chroniques, et le développement de l'activité physique, eh bien, constitue maintenant un axe majeur des plans de santé publique.
Alors, ce terme de sédentarité, si vous le voulez bien, Jean-Marc, on pourrait le redéfinir, et justement, expliquer quels sont les risques de cette sédentarité pour la santé.
Eh ben, c'est 2 millions de morts par an dans le monde. Selon l'OMS, ça a été calculé, donc c'est quelque chose de majeur. Les activités sédentaires, c'est quoi? C'est les activités qui sont réalisées au repos, hein, quand on est assis, allongé ou qu'on est debout sans bouger, en dehors bien évidemment des heures de sommeil. Donc c'est par exemple quand on se déplace en voiture, quand on regarde la télévision, quand on va travailler devant un ordinateur, si on lit debout même, eh bien tout cela, ce sont des activités sédentaires. Et normalement, ces activités doivent être inférieures à 7 heures par jour. On sait qu'elles ont, ces activités sédentaires, un effet délétère sur la santé, indépendamment du niveau d'activité physique. Donc, ça veut dire que on augmente son risque cardiovasculaire, on augmente le risque de diabète, de cancer de l'endomètre. Et l'enjeu, justement, c'est d'augmenter, c'est vrai, le temps d'activité physique effective et de diminuer, dans le même temps, le temps passé aux activités sédentaires. Depuis 2016, il a noté que la loi en France prévoit que les médecins traitants puissent prescrire justement une activité physique chez les patients qui souffrent d'une maladie chronique, vous savez, ces affections longue durée, les ALD30. Et pour autant, alors que la loi le permet, on se rend compte que l'impact justement de l'activité physique sur la santé est encore insuffisamment connu des médecins. Et qu'en plus, ils ont peu d'outils pratiques pour pouvoir les aider à justement faire cette prescription. Alors, l'idée, c'est qu'il s'appuie en tout cas sur les activités de la vie quotidienne et les déplacements actifs, comme on a dit, le vélo, la marche, le fait de monter les escaliers. Pourquoi ? Parce que c'est simplement facilement accessible et que même chez une personne peu motivée, c'est plus simple de dire qu'il faut marcher un peu plus que faire du sport.
Alors, on disait manque d'informations à ce sujet. Précisément, un guide vient d'être publié. Alors, que propose ce guide qui est donc signé, rédigé par la Haute Autorité de Santé?
Et oui, c'est un guide qui s'appelle « Promotion, consultation et prescription d'activités physiques et sportives pour la santé ». Voilà. L'objectif de ce guide, c'est de lever un certain nombre de freins et de favoriser le développement de la thérapeutique non médicamenteuse. C'est-à-dire le fait de soigner sans utiliser des médicaments. Et là, l'activité physique se trouve clairement dans ce débat-là. Alors, l'idée du guide, c'est de donner d'abord un socle de connaissances générales sur l'activité physique et sur leurs impacts sur la santé. Ça donne aussi un modèle de déroulé de consultation et des outils pratiques comme des questionnaires d'aptitude, des grilles d'évaluation, l'évaluation de la condition physique, de l'état de motivation, etc. du patient. Et puis, en complément, l'HAS propose même des référentiels d'aide à la prescription par pathologie. Le surpoids, le diabète, l'hypertension artérielle, la bronchopneumopathie chronique obstructive, les maladies coronaires et puis les accidents vasculaires cérébraux. Alors, avec vraiment ce nouvel outil, même les médecins n'auront plus d'excuses pour ne pas promouvoir et prescrire la meilleure activité physique pour la santé de leurs patients.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo, et à très bientôt dans Priorité Santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Demain, nous allons parler de la médecine bienveillante. Comment l'écoute, la relation de confiance participe au processus thérapeutique? Si vous avez un témoignage à apporter, notre numéro, le 33 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sunu Assurance. Comme nos clients dans plus de 14 pays, profitez d'une assurance santé toute option où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sunu Assurance, notre métier, l'assurance.